Consuelo, livre 3, chapitre 92. Consuelo ne raconta au Porpora que ce qu'il devait savoir des motifs de Marie-Thérèse dans l'espèce de disgrâce où elle venait de faire tomber notre héroïne. Le reste eût affligé, inquiété et irrité peut-être le maestro contre Hind, sans remédier à rien. Consuelo ne voulut pas dire non plus à son jeune ami ce qu'elle taisait au Porpora. Elle méprisait avec raison quelques vagues accusations qu'elle savait bien avoir été forgées à l'impératrice par deux ou trois personnes ennemies, et qui n'avaient nullement circulé dans le public. L'ambassadeur Corner, à qui elle jugea utile de tout confier, la confirma dans cette opinion. Et, pour éviter que la méchanceté ne s'emparât de ses semences de calomnie, il arrangea sagement et généreusement les choses. Il décida le Porpora à demeurer dans son hôtel avec Consuelo, et Hind entra au service de l'ambassade et fut admis à la table des secrétaires particuliers. De cette manière, le vieux maestro échappait aux soucis de la misère. Joseph continuait à rendre au Porpora quelques services personnels qui le mettaient à même de l'approcher souvent et de prendre ses leçons. Et Consuelo était à couvert des malignes imputations. Malgré ses précautions, la corrida fut engagée à la place de Consuelo au théâtre impérial. Consuelo n'avait pas su plaire à Marie-Thérèse. Cette grande reine, tout en s'amusant des intrigues de coulisses que Kaunitz et Métastase lui racontaient à moitié et toujours avec un esprit charmant, voulait jouer le rôle d'une providence incarnée et couronnée au milieu de ses cabotins, qui, devant elle, jouait celui de pécheur repentant et de démon converti. On pense bien qu'au nombre de ces hypocrites, qui recevaient de petites pensions et de petits cadeaux pour leur soi-disant piété, ne se trouvaient ni Caffariello, ni Farinelli, ni la Tesi, ni Madame Haas, ni aucun de ces grands virtuoses que Vienne possédait alternativement, et à qui leur talent et leur célébrité faisaient pardonner bien des choses. Mais les emplois vulgaires étaient brigués par des gens décidés à flatter la fantaisie dévote et moralisante de Sa Majesté. Et Sa Majesté, qui portait en toute chose son esprit d'intrigue politique, faisait du tripotage diplomatique à propos du mariage ou de la conversion de ses comédiens. On a pu lire dans les mémoires de Favart cet intéressant roman réel qui se passa historiquement dans les coulisses, les difficultés qu'il éprouvait pour envoyer à Vienne des actrices et des chanteuses d'opéra dont on lui avait confié la fourniture. On les voulait à bon marché, et de plus, sages comme des vestales. Je crois que ce spirituel fournisseur breveté de Marie-Thérèse, après avoir bien cherché à Paris, finit par n'en pas trouver une seule, ce qui fait plus d'honneur à la franchise qu'à la vertu de nos filles d'opéra, comme on disait alors. Ainsi, Marie-Thérèse voulait donner à l'amusement qu'elle prenait à tout ceci un prétexte édifiant et digne de la majesté bienfaisante de son caractère. Les monarques posent toujours, et les grands monarques plus peut-être que tous les autres. Le Porpora le disait sans cesse, et il ne se trompait pas. La grande impératrice, zélée catholique, mère de famille exemplaire, n'avait aucune répugnance à causer avec une prostituée, à la catéchiser, à provoquer ses étranges confidences, afin d'avoir la gloire d'amener une Madeleine repentante aux pieds du Seigneur. Le trésor particulier de Sa Majesté, placé entre le vice et la contrition, rendait nombreux et infaillibles ces miracles de la grâce entre les mains de l'impératrice. Ainsi, Corrida, pleurante et prosternée, sinon en personne, je doute qu'elle pût rompre son farouche caractère à cette comédie. Mais par procuration passée à M. de Kaunitz, qui se portait caution de sa vertu nouvelle, devait l'emporter infailliblement sur une petite fille décidée, fière et forte comme l'immaculée Consuelo. Marie-Thérèse n'aimait dans ses protégés dramatiques que les vertus dont elle pouvait se dire l'auteur. Les vertus qui s'étaient faites ou gardées elles-mêmes ne l'intéressaient pas beaucoup. Elle n'y croyait pas comme sa propre vertu eût dû la porter à y croire. Enfin, l'attitude de Consuelo l'avait piquée. Elle l'avait trouvée esprit fort et raisonneuse. C'était trop de présomption et d'outrecuidance de la part d'une petite comédienne que de vouloir être estimable et sage sans que l'impératrice s'en mêlât. Lorsque M. de Kaunitz, qui feignait d'être très impartial, tout en desservant l'une au profit de l'autre, demanda à Sa Majesté si elle avait agréé la supplique de cette petite, Marie-Thérèse répondit « Je n'ai pas été contente de ses principes, ne me parlez plus d'elle. » Et tout fut dit. La voix, la figure et jusqu'au nom de la Porporina furent même complètement oubliés. Un seul mot avait été nécessaire et en même temps péremptoire pour expliquer au Porpora la cause de la disgrâce où il se trouvait enveloppé. Consuelo avait été obligé de lui dire que sa position de demoiselle paraissait inadmissible à l'impératrice. « Et la Corilla ?» s'était écrié le Porpora en apprenant l'admission de cette dernière. « Est-ce que Sa Majesté vient de la marier ?» Autant que j'ai pu le comprendre ou le deviner dans les paroles de Sa Majesté, la Corilla passe ici pour veuve. Oh, 3 fois veuve, 10 fois, 100 fois veuve, en effet, disait le Porpora avec un rire amer. Mais que dira-t-on quand on saura ce qu'il en est, et quand on la verra procéder ici à de nouveaux et innombrables veuvages? Et cet enfant dont on m'a parlé, qu'elle vient de laisser auprès de Vienne chez un chanoine, cet enfant qu'elle voulait faire accepter au comte Giustiniani, et que le comte Giustiniani lui a conseillé de recommander à la tendresse paternelle d'Anzoletto. Elle se moquera de tout cela avec ses camarades. Elle le racontera, suivant sa coutume, dans des termes cyniques, et rira dans le secret de son alcôve du bon tour qu'elle a joué à l'impératrice. Mais si l'impératrice apprend la vérité? L'impératrice ne l'apprendra pas. Les souverains sont entourés, je m'imagine, d'oreilles qui servent de portique aux leurs propres. Beaucoup de choses restent dehors, et rien n'entre dans le sanctuaire de l'oreille impériale que ce que les gardiens ont bien voulu laisser passer. D'ailleurs, reprenait le Porpora, la Corilla aura toujours la ressource d'aller à confesse, et ce sera M. de Kaunitz qui sera chargé de faire observer la pénitence. Le pauvre maestro exhalait sa bile dans ses âcres plaisanteries. Mais il était profondément chagrin. Il perdait l'espoir de faire représenter l'opéra qu'il avait en portefeuille, d'autant plus qu'il l'avait écrit sur un libretto qui n'était pas de Métastase, et que Métastase avait le monopole de la poésie de cour. Il n'était pas sans quelque pressentiment du peu d'habileté que Consuelo avait mis à capter les bonnes grâces de la souveraine, et il ne pouvait s'empêcher de lui en témoigner de l'humeur. Pour surcroît de malheur, l'ambassadeur de Venise avait eu l'imprudence, un jour qu'il le voyait enflammé de joie et d'orgueil pour le rapide développement que prenait entre ses mains l'intelligence musicale de Joseph Hind, de lui apprendre toute la vérité sur ce jeune homme et de lui montrer ses jolis essais de composition instrumentale qui commençaient à circuler et à être remarqués chez les amateurs. Le maestro s'écria qu'il avait été trompé et entra dans une fureur épouvantable. Heureusement, il ne soupçonna pas que Consuelo fût complice de cette ruse, et M. Corner, voyant l'orage qu'il avait provoqué, se hâta de prévenir ses méfiances à cet égard par un bon mensonge. Mais il ne put empêcher que Joseph fût banni pendant plusieurs jours de la chambre du maître, et il fallut tout l'ascendant que sa protection et ses services lui donnaient sur ce dernier pour que l'élève rentrât en grâce. Porpora ne lui en garda pas moins rancune pendant longtemps, et l'on dit même qu'il se plut à lui faire acheter ses leçons par l'humiliation d'un service de valet plus minutieux et plus prolongé qu'il n'était nécessaire, puisque les laquais de l'ambassadeur étaient à sa disposition. Hinde ne se rebuta pas, et à force de douceur, de patience et de dévouement, toujours exhorté et encouragé par la bonne Consuelo, toujours studieux et attentif à ses leçons, il parvint à désarmer le rude professeur et à recevoir de lui tout ce qu'il pouvait et voulait s'assimiler. Mais le génie de Hinde rêvait une route différente de celle qu'on avait tentée jusque-là, et le père futur de la symphonie confiait à Consuelo ses idées sur la partition instrumentale développée dans des proportions gigantesques. Ces proportions gigantesques, qui nous paraissent si simples et si discrètes aujourd'hui, pouvaient passer, il y a 100 ans, pour l'utopie d'un fou, aussi bien que pour la révélation d'une nouvelle ère ouverte au génie. Joseph doutait encore de lui-même, et ce n'était pas sans terreur qu'il confessait bien bas à Consuelo l'ambition qui le tourmentait. Consuelo en fut aussi un peu effrayé d'abord. Jusque-là, l'instrumentation n'avait eu qu'un rôle secondaire, où, lorsqu'elle s'isolait de la voix humaine, elle agissait sans moyens compliqués. Cependant, il y avait tant de calme et de douceur persévérante chez son jeune confrère, il montrait dans toute sa conduite, dans toutes ses opinions, une modestie si réelle et une recherche si froidement consciencieuse de la vérité, que Consuelo, ne pouvant se décider à le croire présomptueux, se décida à le croire sage et à l'encourager dans ses projets. Ce fut à cette époque que Hinde composa une sérénade à 3 instruments, qu'il alla exécuter avec 2 de ses amis sous les fenêtres des dilettanti, dont il voulait attirer l'attention sur ses œuvres. Il commença par le Porpora, qui, sans savoir le nom de l'auteur ni celui des concertants, se mit à sa fenêtre, écouta avec plaisir et battit des mains sans réserve. Cette fois, l'ambassadeur, qui écoutait aussi et qui était dans le secret, se tint sur ses gardes et ne trahit pas le jeune compositeur. Porpora ne voulait pas qu'en prenant ses leçons de chant, on se laissât distraire par d'autres pensées. À cette époque, le Porpora reçut une lettre de l'excellent contralto Hubert, son élève, celui qu'on appelait le Porporino, et qui était attaché au service de Frédéric le Grand. Cet artiste éminent n'était pas, comme les autres élèves du professeur, infatué de son propre mérite, au point d'oublier tout ce qu'il lui devait. Le Porporino avait reçu de lui un genre de talent qu'il n'avait jamais cherché à modifier et qui lui avait toujours réussi. C'était de chanter d'une manière large et pure, sans créer d'ornement et sans s'écarter des saines traditions de son maître. Il était particulièrement admirable dans l'adagio. Aussi, le Porpora avait-il pour lui une prédilection qu'il avait bien de la peine à cacher devant les admirateurs fanatiques de Farinelli et Caffariello. Il convenait bien que l'habileté, le brillant, la souplesse de ces grands virtuoses jetaient plus d'éclat et devaient transporter plus soudainement un auditoire avide de merveilleuses difficultés. Mais il disait tout bas que son Porporino ne sacrifiait jamais au mauvais goût et qu'on ne se lassait jamais de l'entendre, bien qu'il chantât toujours de la même manière. Il paraît que la Prusse ne s'en lassa point, en effet, car il y brilla pendant toute sa carrière musicale, et y mourut fort vieux, après un séjour de plus de 40 ans. La lettre d'Hubert annonçait au Porpora que sa musique était fort goûtée à Berlin, et que s'il voulait venir l'y rejoindre, il se faisait fort de faire admettre et représenter ses compositions nouvelles. Il l'engageait beaucoup à quitter Vienne, où les artistes étaient en butte à de perpétuelles intrigues de coterie, et à recruter pour la cour de Prusse une cantatrice distinguée qui pût chanter avec lui les opéras du maestro. Il faisait un grand éloge du goût éclairé de son roi et de la protection honorable qu'il accordait aux musiciens. « Si ce projet vous sourit, disait-il en finissant sa lettre, répondez-moi promptement quelles sont vos prétentions, et d'ici à 3 mois, je vous réponds de vous faire obtenir des conditions qui vous procureront enfin une existence paisible. Quant à la gloire, mon cher maître, il suffira que vous écriviez pour que nous chantions de manière à vous faire apprécier, et j'espère que le bruit en ira jusqu'à Dresde. » Cette dernière phrase fit dresser les oreilles au Porpora comme un vieux cheval de bataille. C'était une allusion au triomphe que Haas et ses chanteurs obtenaient à la cour de Saxe. L'idée de contrebalancer l'éclat de son rival dans le nord de la Germanie sourit tellement au maestro, et il éprouvait en ce moment tant de dépit contre Vienne, les Viennois et leur cour, qu'il répondit sans balancer au Porporino, l'autorisant à faire des démarches pour lui à Berlin. Il lui traça son ultimatum, et il le fit le plus modeste possible, afin de ne pas échouer dans son espérance. Il lui parla de la Porporina avec les plus grands éloges, lui disant qu'elle était sa sœur, et par l'éducation, et par le génie, et par le cœur, comme elle l'était par le surnom, et l'engagea à traiter de son engagement dans les meilleures conditions possibles. Le tout sans consulter Consuelo, qui fut informé de cette nouvelle résolution après le départ de la lettre. La pauvre enfant fut fort effrayée au seul nom de la Prusse, et celui du grand Frédéric lui donna le frisson. Depuis l'aventure du déserteur, elle ne se représentait plus ce monarque si vanté que comme un ogre et un vampire. Le Porpora l'agranda beaucoup du peu de joie qu'elle montrait à l'idée de ce nouvel engagement. Et, comme elle ne pouvait pas lui raconter l'histoire de Karl et les prouesses de M. Meyer, elle baissa la tête et se laissa morigéner. Lorsqu'elle y réfléchit cependant, elle trouva dans ce projet quelque soulagement à sa position. C'était un ajournement à sa rentrée au théâtre, puisque l'affaire pouvait échouer, et que dans tous les cas, le Porporino demandait 3 mois pour la conclure. Jusque-là, elle pouvait rêver à l'amour du comte Albert et trouver en elle-même la forte résolution d'y répondre. Soit qu'elle en vint à reconnaître la possibilité de s'unir à lui, soit qu'elle se sentît incapable de s'y déterminer, elle pouvait tenir avec honneur et franchise l'engagement qu'elle avait pris d'y songer sans distraction et sans contrainte. Elle résolut d'attendre pour annoncer ses nouvelles aux hôtes de Risenburg, que le comte Christian répondit à sa première lettre. Mais cette réponse n'arrivait pas, et Consuelo commençait à croire que le vieux Rudolf Stadt avait renoncé à cette mésalliance et travaillait à y faire renoncer Albert. Lorsqu'elle reçut furtivement de la main de Keller une petite lettre ainsi conçue. Vous m'aviez promis de m'écrire. Vous l'avez fait indirectement en confiant à mon père les embarras de votre situation présente. Je vois que vous subissez un joug auquel je me ferais un crime de vous soustraire. Je vois que mon bon père est effrayé pour moi des conséquences de votre soumission au Porpora. Quant à moi, Consuelo, je ne suis effrayé de rien jusqu'à présent, parce que vous témoignez à mon père du regret et de l'effroi pour le parti qu'on vous engage à prendre. Ce m'est une preuve suffisante de l'intention où vous êtes de ne pas prononcer légèrement l'arrêt de mon éternel désespoir. Non, vous ne manquerez pas à votre parole. Vous tâcherez de m'aimer. Que m'importe où vous soyez, et ce qui vous occupe, et le rang que la gloire ou le préjugé vous feront parmi les hommes. Et le temps et les obstacles qui vous retiendront loin de moi, si j'espère et si vous me dites d'espérer. Je souffre beaucoup sans doute, mais je puis souffrir encore sans défaillir tant que vous n'aurez pas éteint en moi l'étincelle de l'espérance. J'attends, je sais attendre. Ne craignez pas de m'effrayer en prenant du temps pour me répondre. Ne m'écrivez pas sous l'impression d'une crainte ou d'une pitié auquel je ne veux devoir aucun ménagement. pesez mon destin dans votre cœur et mon âme dans la vôtre. Et quand le moment sera venu, quand vous serez sûr de vous-même, que vous soyez dans une cellule de religieuse ou sur les planches d'un théâtre, dites-moi de ne jamais vous importuner ou d'aller vous rejoindre. Je serai à vos pieds, ou je serai muet pour jamais au gré de votre volonté. Albert. Oh, noble Albert ! S'écria Consuelo en portant ce papier à ses lèvres. Je sens que je t'aime. Il serait impossible de ne pas t'aimer. Et je ne veux pas hésiter à te le dire. Je veux récompenser par ma promesse la constance et le dévouement de ton amour. » Elle se mit sur le champ à écrire. Mais la voix du Porpora lui fit cacher à la hâte dans son sein et la lettre d'Albert et la réponse qu'elle avait commencée. De toute la journée, elle ne retrouva pas un instant de loisir et de sécurité. Il semblait que le vieux sournois eût deviné le désir qu'elle avait d'être seule, et qu'il prit à tâche de s'y opposer. La nuit venue, Consuelo se sentit plus calme et comprit qu'une détermination aussi grave demandait une plus longue épreuve de ses propres émotions. Il ne fallait pas exposer Albert aux funestes conséquences d'un retour sur elle-même. Elle relut 100 fois la lettre du jeune comte, et vit qu'il craignait également de sa part la douleur d'un refus et la précipitation d'une promesse. Elle résolut de méditer sa réponse pendant plusieurs jours. Albert lui-même semblait l'exiger. La vie que Consuelo menait alors à l'ambassade était fort douce et fort réglée. Pour ne pas donner lieu à de méchantes suppositions, Corner eut la délicatesse de ne jamais lui rendre de visite dans son appartement et de ne jamais la tirer, même en société du Porpora, dans le sien. Il ne la rencontrait que chez Madame Wilhelmine, où il pouvait lui parler sans la compromettre, et où elle chantait obligeamment en petit comité. Joseph aussi fut admis à y faire de la musique. Caffariello y venait souvent, le comte Auditz quelquefois, et l'abbé Métastase rarement. Tous trois déploraient que Consuelo eût échoué, mais aucun d'eux n'avait eu le courage ou la persévérance de lutter pour elle. Le Porpora s'en indignait et avait bien de la peine à le cacher. Consuelo s'efforçait de l'adoucir et de lui faire accepter les hommes avec leurs travers et leurs faiblesses. Elle l'excitait à travailler, et grâce à elle, il retrouvait de temps à autre quelques lueurs d'espoir et d'enthousiasme. Elle l'encourageait seulement dans le dépit qui l'empêchait de la mener dans le monde pour y faire entendre sa voix. Heureuse d'être oubliée de ses grands, qu'elle avait aperçus avec effroi et répugnance, elle se livrait à de sérieuses études, à de douces rêveries, cultivait l'amitié devenue calme et sainte du bon Hind, et se disait chaque jour, en soignant son vieux professeur, que la nature, si elle ne l'avait pas faite pour une vie sans émotion et sans mouvement, l'avait faite encore moins pour les émotions de la vanité et l'activité de l'ambition. Elle avait bien rêvé, elle rêvait bien encore, malgré elle, une existence plus animée, des joies de cœur plus vives, des plaisirs d'intelligence plus expansifs et plus vastes. Mais le monde de l'art, qu'elle s'était créé si pur, si sympathique et si noble, ne se manifestant à ses regards que sous des dehors affreux, elle préférait une vie obscure et retirée, des affections douces et une solitude laborieuse. Consuelo n'avait point de nouvelles réflexions à faire sur l'offre des Rudolfstadt. Elle ne pouvait concevoir aucun doute sur leur générosité, sur la sainteté inaltérable de l'amour du fils, sur la tendresse indulgente du père. Ce n'était plus sa raison et sa conscience qu'elle devait interroger. L'une et l'autre parlaient pour Albert. Elle avait triomphé cette fois sans effort du souvenir d'Anzoletto. Une victoire sur l'amour donne de la force pour toutes les autres. Elle ne craignait donc plus la séduction. Elle se sentait désormais à l'abri de toute fascination. Et avec tout cela, la passion ne parlait pas énergiquement pour Albert dans son âme. Il s'agissait encore et toujours d'interroger ce cœur, au fond duquel un calme mystérieux accueillait l'idée d'un amour complet. Assise à sa fenêtre, la naïve enfant regardait souvent passer les jeunes gens de la ville. Étudiant hardi, noble seigneur, artiste mélancolique, fier cavalier, tous étaient l'objet d'un examen chastement et sérieusement enfantin de sa part. « Voyons, se disait-elle, mon cœur est-il fantasque et frivole? Suis-je capable d'aimer soudainement, follement et irrésistiblement à la première vue, comme bon nombre de mes compagnes de la scuola s'en vantaient ou s'en confessaient devant moi les unes aux autres? L'amour est-il un magique éclair qui foudroie notre être et qui nous détourne violemment de nos affections jurées ou de notre paisible ignorance? Y a-t-il chez ces hommes qui lèvent les yeux quelquefois vers ma fenêtre un regard qui me trouble et me fascine? Celui-ci, avec sa grande taille et sa démarche orgueilleuse, me semble-t-il plus noble et plus beau qu'Albert? Cet autre, avec ses beaux cheveux et son costume élégant, efface-t-il en moi l'image de mon fiancé? Enfin, voudrais-je être la dame parée que je vois passer là, dans sa calèche, avec un superbe monsieur qui tient son éventail et lui présente ses gants? Quelque chose de tout cela me fait-il trembler, rougir, palpiter ou rêver? Non, non, en vérité. Parle, mon cœur, prononce-toi, je te consulte et je te laisse courir. Je te connais à peine, hélas. J'ai eu si peu le temps de m'occuper de toi depuis que je suis née. Je ne t'avais pas habitué à être contrarié. Je te livrais l'empire de ma vie, sans examiner la prudence de tes élans. On t'a brisé, mon pauvre cœur, et à présent que la conscience t'a dompté, tu n'oses plus vivre, tu ne sais plus répondre. Parle donc, éveille-toi et choisis. Eh bien, tu restes tranquille et tu ne veux rien de tout ce qui est là. Non, tu ne veux plus d'Anzoletto. Encore non. Alors, c'est donc Albert que tu appelles? Il me semble que tu dis oui. Et Consuelo se retirait chaque jour de sa fenêtre avec un frais sourire sur les lèvres et un feu clair et doux dans les yeux. Au bout d'un mois, elle répondit à Albert, à tête reposée, bien lentement, et presque en se tâtant le pouls à chaque lettre que traçait sa plume. « Je n'aime rien que vous, et je suis presque sûre que je vous aime. Maintenant, laissez-moi rêver à la possibilité de notre union. Rêvez-y vous-même. Trouvons ensemble les moyens de n'affliger ni votre père, ni mon maître, et de ne point devenir égoïste en devenant heureux. » Elle joignit à ce billet une courte lettre pour le comte Christian, dans laquelle elle lui disait la vie tranquille qu'elle menait, et lui annonçait le dépit que les nouveaux projets du Porpora lui avaient laissé. Elle demandait qu'on cherchât et qu'on trouvât les moyens de désarmer le Porpora, et qu'on lui en fît part dans un mois. Un mois lui resterait encore pour y préparer le maestro, avant le résultat de l'affaire entamée à Berlin. Consuelo, ayant cacheté ses deux billets, les mit sur sa table et s'endormit. Un calme délicieux était descendu dans son âme, et jamais, depuis longtemps, elle n'avait goûté un si profond et si agréable sommeil. Elle s'éveilla tard et se leva à la hâte pour voir Keller, qui avait promis de revenir chercher sa lettre à 8 heures. Il en était 9. Et tout en s'habillant en grande hâte, Consuelo vit avec terreur que cette lettre n'était plus à l'endroit où elle l'avait mise. Elle la chercha partout sans la trouver. Elle sortit pour voir si Keller ne l'attendait pas dans l'antichambre. Ni Keller ni Joseph ne s'y trouvaient. Et comme elle rentrait chez elle pour chercher encore, elle vit le Porpora approcher de sa chambre et la regarder d'un air sévère. « Que cherches-tu ? » lui dit-il. « Une feuille de musique que j'ai égarée. »« Tu mens, tu cherches une lettre. »« Maître. » »« Tais-toi, Consuelo, tu ne sais pas encore mentir. Ne la prends pas. » »« Maître, qu'as-tu fait de cette lettre ?» « Je l'ai remise à Keller. » Et pourquoi la lui as-tu remise, maître ?
Parce qu'il venait la chercher. Tu le lui avais recommandé hier. Tu ne sais pas feindre, Consuelo. Ou bien j'ai encore l'oreille plus fine que tu ne penses.
Et enfin, dit Consuelo avec résolution, qu'as-tu fait de ma lettre ?
Je te l'ai dit, pourquoi me le demandes-tu encore ? J'ai trouvé fort inconvenant qu'une jeune fille, honnête comme tu l'es, et comme je présume que tu veux l'être toujours, remit en secret des lettres à son perruquier. Pour empêcher cet homme de prendre une mauvaise idée de toi, je lui ai remis la lettre d'un air calme, et l'ai chargé de ta part de la faire partir. Il ne croira pas, du moins, que tu caches à ton père adoptif un secret coupable.
Maître, tu as raison, tu as bien fait. Pardonne-moi.
Je te pardonne, n'en parlons plus.
Et tu as lu ma lettre ?
Ajouta Consuelo d'un air craintif et caressant.
Pour qui me prends-tu ?
Répondit le porpora d'un air terrible.
Pardonne-moi tout cela, dit Consuelo en pliant le genou devant lui et en essayant de prendre sa main. Laisse-moi t'ouvrir mon cœur.
Pas un mot de plus,
répondit le maître en la repoussant. Et il entra dans sa chambre, dont il ferma la porte sur lui avec fracas. Consuelo espéra que cette première bourrasque passée, elle pourrait l'apaiser et avoir avec lui une explication décisive. Elle se sentait la force de lui dire toute sa pensée et se flattait de hâter par là l'issue de ses projets. Mais il se refusa à toute explication, et sa sévérité fut inébranlable et constante sous ce rapport. Du reste, il lui témoigna autant d'amitié qu'à l'ordinaire, et même, à partir de ce jour, il eut plus d'enjouement dans l'esprit et de courage dans l'âme. Consuelo en conçut un bon augure et attendit avec confiance la réponse de Risenburg. Le porpora n'avait pas menti. Il avait brûlé les lettres de Consuelo sans les lire, mais il avait conservé l'enveloppe et y avait substitué une lettre de lui-même pour le comte Christian. Il crut, par cette démarche courageuse, avoir sauvé son élève et préservé le vieux Rudolfstadt d'un sacrifice au-dessus de ses forces. Il crut avoir rempli envers lui le devoir d'un ami fidèle et envers Consuelo celui d'un père énergique et sage. Il ne prévit pas qu'il pouvait porter le coup de la mort au comte Albert. Il le connaissait à peine, il croyait que Consuelo avait exagéré, que ce jeune homme n'était ni si épris ni si malade qu'elle se l'imaginait. Enfin, il croyait, comme tous les vieillards, que l'amour a un terme et que le chagrin ne tue personne. Chapitre 93. Dans l'attente d'une réponse qu'elle ne devait pas recevoir, puisque le porpora avait brûlé sa lettre, Consuelo continua le genre de vie studieux et calme qu'elle avait adopté. Sa présence attira chez la Wilhelmine quelques personnes fort distinguées qu'elle eut grand plaisir à y rencontrer souvent, entre autres le baron Frédéric de Trenck, qui lui inspirait une vraie sympathie. Il eut la délicatesse de ne point l'aborder la première fois qu'il la revit, comme une ancienne connaissance, mais de se faire présenter à elle après qu'elle eut chanté, comme un admirateur profondément touché de ce qu'il venait d'entendre. En retrouvant ce beau et généreux jeune homme qu'il avait sauvé si bravement de M. Meyer et de sa bande, le premier mouvement de Consuelo fut de lui tendre la main. Le baron, qui ne voulait pas qu'elle fît d'imprudence par gratitude pour lui, se hâta de prendre sa main respectueusement comme pour la reconduire à sa chaise, et il la lui pressa doucement pour la remercier. Elle sut ensuite par Joseph, dont il prenait des leçons de musique, qu'il ne manquait jamais de demander de ses nouvelles avec intérêt et de parler d'elle avec admiration, mais que, par un sentiment d'exquise discrétion, il ne lui avait jamais adressé la moindre question sur le motif de son déguisement, sur la cause de leur aventureux voyage et sur la nature des sentiments qu'ils pouvaient avoir eus, ou avoir encore l'un pour l'autre.
« Je ne sais ce qu'il en pense,
ajouta Joseph. « Mais je t'assure qu'il n'est point de femme dont il parle avec plus d'estime et de respect qu'il ne fait de toi. »«
En ce cas, » dit Consuelo, « je t'autorise à lui raconter toute notre histoire, et toute la mienne, si tu veux, sans toutefois nommer la famille de Rudolstadt. J'ai besoin d'être estimée sans réserve de cet homme à qui nous devons la vie, et qui s'est conduit si noblement avec moi sous tous les rapports. » Quelques semaines après, Monsieur de Twenk, ayant à peine terminé sa mission à Vienne, fut rappelé brusquement par Frédéric et vint un matin à l'ambassade pour dire adieu à la hâte à Monsieur Corner. Consuelo, en descendant l'escalier pour sortir, le rencontra sous le péristyle. Comme il s'y trouvait seul, il vint à elle et prit sa main qu'il baisa tendrement.
« Permettez-moi, lui dit-il, de vous exprimer pour la première et peut-être pour la dernière fois de ma vie les sentiments dont mon cœur est rempli pour vous. Je n'avais pas besoin que Beppo me racontât votre histoire pour être pénétré de vénération. Il y a des physionomies qui ne trompent pas, et il ne m'avait fallu qu'un coup d'œil pour pressentir et deviner en vous une grande intelligence et un grand cœur. Si j'avais su, à Passau, que notre cher Joseph était si peu sur ses gardes, je vous aurais protégé contre les légèretés du comte Auditz, que je ne prévoyais que trop, bien que j'eusse fait mon possible pour lui faire comprendre qu'il s'adressait fort mal et qu'il allait se rendre ridicule. Au reste, ce bon Auditz m'a raconté lui-même comment vous vous êtes moqué de lui, et il vous sait le meilleur gré du monde de lui avoir gardé le secret. Moi, je n'oublierai jamais la romanesque aventure qui m'a procuré le bonheur de vous connaître. Et quand même je devrais la payer de ma fortune et de mon avenir, je la compterai encore parmi les plus beaux jours de ma vie.
« Croyez-vous donc, monsieur le baron, dit Consuelo, qu'elle puisse avoir de pareilles suites ?
J'espère que non, et pourtant tout est possible à la cour de Prusse.
Vous me faites une grande peur de la Prusse. « Savez-vous, monsieur le baron, qu'il serait pourtant possible que j'eusse avant peu le plaisir de vous y retrouver? Il est question d'un engagement pour moi à Berlin. »«
En vérité ! » s'écria Twenk, dont le visage s'éclaira d'une joie soudaine.
« Eh bien, Dieu fasse que ce projet se réalise. Je puis vous être utile à Berlin, et vous devez compter sur moi comme sur un frère. »«
Oui, j'ai pour vous l'affection d'un frère, Consuelo. Et si j'avais été libre, je n'aurais peut-être pas su me défendre d'un sentiment plus vif encore. Mais vous ne l'êtes pas non plus, et des liens sacrés, éternels, ne me permettent pas d'envier l'heureux gentilhomme qui sollicite votre main. Quel qu'il soit, madame, comptez qu'il trouvera en moi un ami s'il le désire, et s'il a jamais besoin de moi, un champion contre les préjugés du monde. » Hélas, moi aussi, Consuelo, j'ai dans ma vie une barrière terrible qui s'élève entre l'objet de mon amour et moi. Mais celui qui vous aime est un homme, et il peut abattre la barrière, tandis que la femme que j'aime, et qui est d'un rang plus élevé que moi, n'a ni le pouvoir, ni le droit, ni la force, ni la liberté de me la faire franchir.
Je ne pourrai donc rien pour elle, ni pour vous, dit Consuelo. « Pour la première fois, je regrette l'impuissance de ma pauvre condition. »«
Qui sait ? » s'écria le baron avec feu. « Vous pourrez peut-être plus que vous ne pensez, sinon pour nous réunir, du moins pour adoucir parfois l'horreur de notre séparation. Vous sentiriez-vous le courage de braver quelques dangers pour nous ? » ?»«
Avec autant de joie que vous avez exposé votre vie pour me sauver. » »«
Eh bien, j'y compte. » « Souvenez-vous de cette promesse, Consuelo. Peut-être sera-ce à l'improviste que je vous la rappellerai. »«
À quelque heure de ma vie que ce soit, je ne l'aurai point oublié, » répondit-elle en lui tendant la main.
« Eh bien, » dit-il, « donnez-moi un signe, un gage de peu de valeur que je puisse vous représenter dans l'occasion, car j'ai le pressentiment de grandes luttes qui m'attendent. » Et il peut se trouver des circonstances où ma signature, mon cachet même, pourrait compromettre elle et vous.
Voulez-vous le cahier de musique que j'allais porter chez quelqu'un de la part de mon maître,
Je m'en procurerai un autre, et je ferai à celui-ci une marque pour le reconnaître dans l'occasion. »
Pourquoi non ? Un cahier de musique est en effet ce qu'on peut le mieux envoyer sans éveiller les soupçons.
Mais pour qu'il puisse me servir plusieurs fois, j'en détacherai les feuillets. Faites un signe à toutes les pages. »
Consuelo, s'appuyant sur la rampe de l'escalier, traça le nom de Bertoni sur chaque feuillet du cahier. Le baron le roula et l'emporta, après avoir juré une éternelle amitié à notre héroïne. À cette époque, Madame Tesi tomba malade, et les représentations du théâtre impérial menacèrent d'être suspendues, car il y avait les rôles les plus importants. La Corilla pouvait, à la rigueur, la remplacer. Elle avait un grand succès à la cour et à la ville. Sa beauté et sa coquetterie provocante tournaient la tête à tous ces bons seigneurs allemands, et l'on ne songeait pas à être difficile pour sa voix un peu éraillée, pour son jeu un peu épileptique. Tout était beau de la part d'une si belle personne. Ses épaules de neige filaient des sons admirables, ses bras ronds et voluptueux chantaient toujours juste, et ses poses superbes enlevaient d'emblée les traits les plus hasardés. Malgré le purisme musical dont on se piquait là, on y subissait, tout comme à Venise, la fascination du regard langoureux. Et Madame Corilla préparait dans son boudoir plusieurs fortes têtes à l'enthousiasme et à l'entraînement de la représentation. Elle se présenta donc hardiment pour chanter, par intérim, les rôles de Madame Tesi. Mais l'embarras était de se faire remplacer elle-même dans ceux qu'elle avait chantés jusque-là. La voix flûtée de Madame Holzbauer ne permettait pas qu'on y songeât. Il fallait donc laisser arriver Consuelo, ou se contenter à peu de frais. Le porpora s'agitait comme un démon. Métastase, horriblement mécontent de la prononciation lombarde de Corilla et indigné du tapage qu'elle faisait pour effacer les autres rôles, contrairement à l'esprit du poème et en dépit de la situation, ne cachait plus son éloignement pour elle et sa sympathie pour la consciencieuse et intelligente Porporina. Caffariello, qui faisait la cour à Madame Tesi, laquelle Madame Tesi détestait déjà cordialement la Corilla pour avoir osé lui disputer ses effets et le sceptre de la beauté, déclamait hardiment pour l'admission de Consuelo. Holzbauer, jaloux de soutenir l'honneur de sa direction, mais effrayé de l'ascendant que Porpora saurait bientôt prendre s'il avait un pied seulement dans la coulisse, ne savait où donner de la tête. La bonne conduite de Consuelo lui avait concilié assez de partisans pour qu'il fût difficile d'en imposer plus longtemps à l'impératrice. Par suite de tous ces motifs, Consuelo reçut des propositions. En les faisant mesquines, on espéra qu'elle les refuserait. Porpora les accepta d'emblée et, comme de coutume, sans la consulter. Un beau matin, Consuelo se trouva engagé pour 6 représentations. Et sans pouvoir s'y soustraire, sans comprendre pourquoi, après une attente de 6 semaines, elle ne recevait aucune nouvelle des Rudolfstadt. Elle fut entraînée par le Porpora à la répétition de l'Antigono de Métastase, musique de Haas. Consuelo avait déjà étudié son rôle avec le Porpora. Sans doute c'était une grande souffrance pour ce dernier d'avoir à lui enseigner la musique de son rival, du plus ingrat de ses élèves, de l'ennemi qu'il haïssait désormais le plus. Mais, outre qu'il fallait en passer par là pour arriver à faire ouvrir la porte à ses propres compositions, le Porpora était un professeur trop consciencieux, une âme d'artiste trop probe pour ne pas mettre tous ses soins, tout son zèle à cette étude. Consuelo le secondait si généreusement qu'il en était à la fois ravi et désolé. En dépit d'elle-même, la pauvre enfant trouvait Haas magnifique, et son âme sentait bien plus de développement dans ces chants si tendres et si passionnés du Sassone que dans la grandeur un peu nue et un peu froide, parfois, de son propre maître. Habitué, en étudiant les autres grands maîtres avec lui, à s'abandonner à son propre enthousiasme, elle était forcée de se contenir cette fois, en voyant la tristesse de son front et l'abattement de sa rêverie après la leçon.
Lorsqu'elle entra en scène pour répéter avec Caffariello et la Corilla, quoiqu'elle sût fort bien sa partie, elle se sentit si émue qu'elle eut peine à ouvrir la scène d'Ismène avec Bérénice, qui commence par ces mots. « No, Tullo, o Bérénice, tu non appris il tuo cuor, etc. » À quoi Corilla répondit par ceci. « Et ti par poco, quel che sai de miei casi ?» En cet endroit, la Corilla fut interrompue par un grand éclat de rire de Caffariello. Et, se tournant vers lui avec des yeux étincelants de colère, « Que trouvez-vous donc là de si plaisant ?» lui demanda-t-elle. « Tu l'as très bien dit, ma grosse Bérénice !» répondit Caffariello en riant plus fort. « On ne pouvait pas le dire plus sincèrement. »« Ce sont les paroles qui vous amusent ?» dit Holzbauer, qui n'eût pas été fâché de redire à Métastase les plaisanteries du sopraniste sur ses vers. « Les paroles sont belles, » répondit sèchement Caffariello, qui connaissait bien le terrain. « Mais leur application à cette circonstance est si parfaite que je ne puis m'empêcher d'en rire. » Et il se tint les côtes en redisant au Porpora « Et ti par poco, quel che sai di tanti casi ?» La Corilla, voyant quelle critique sanglante renfermait cette allusion à ses mœurs, et tremblante de colère, de haine et de crainte, faillit s'élancer sur Consuelo pour la défigurer. Mais la contenance de cette dernière était si douce et si calme qu'elle ne l'osa pas. D'ailleurs, le faible jour qui pénétrait sur le théâtre, venant à tomber sur le visage de sa rivale, elle s'arrêta, frappée de vagues réminiscences et de terreurs étranges. Elle ne l'avait jamais vu au jour, ni de près, à Venise. Au milieu des douleurs de l'enfantement, elle avait vu confusément le petit Zingaro Bertoni s'empresser autour d'elle, et elle n'avait rien compris à son dévouement. En ce moment, elle chercha à rassembler ses souvenirs, et, n'y réussissant pas, elle resta sous le coup d'une inquiétude et d'un malaise qui la troublèrent durant toute la répétition. La manière dont la Porporina chanta sa partie ne contribua pas peu à augmenter sa méchante humeur, et la présence du Porpora, son ancien maître, qui, comme un juge sévère, l'écoutait en silence et d'un air presque méprisant, lui devint peu à peu un supplice véritable. M. Holzbauer ne fut pas moins mortifié lorsque le maestro déclara qu'il donnait les mouvements tout de travers. Et il fallut bien l'en croire, car il avait assisté aux répétitions que Haas lui-même avait dirigées à Dresde lors de la première mise en scène de l'opéra. Le besoin qu'on avait d'un bon conseil fit céder la mauvaise volonté et imposa silence au dépit. Il conduisit toute la répétition, apprit à chacun son devoir et reprit même Caffariello, qui affecta d'écouter ses avis avec respect pour leur donner plus de poids vis-à-vis des autres. Caffariello n'était occupé qu'à blesser la rivale impertinente de Madame Tesi. Et rien ne lui coûtait ce jour-là pour s'en donner le plaisir, pas même un acte de soumission et de modestie. C'est ainsi que chez les artistes comme chez les diplomates, au théâtre comme dans le cabinet des souverains, les plus belles et les plus laides choses ont leur cause cachée, infiniment petites et frivoles. En rentrant après la répétition, Consuelo trouva Joseph tout rempli d'une joie mystérieuse, et quand ils purent se parler, elle apprit de lui que le bon chanoine était arrivé à Vienne, que son premier soin avait été de faire demander son cher Beppo et de lui donner un excellent déjeuner, tout en lui faisant mille tendres questions sur son cher Bertoni. Il s'était déjà entendu sur les moyens de nouer connaissance avec le Porpora, afin qu'on pût se voir en famille, honnêtement et sans cachotterie. Dès le lendemain, le chanoine se fit présenter comme un protecteur de Joseph Haydn, grand admirateur du maestro, et sous le prétexte de venir le remercier des leçons qu'il voulait bien donner à son jeune ami. Consuelo eut l'air de le saluer pour la première fois, et le soir, le maestro et ses deux élèves dînèrent amicalement chez le chanoine. À moins d'afficher un stoïcisme dont les musiciens de ce temps-là, même les plus grands, ne se piquaient guère,
Il eût été difficile au Porpora de ne pas se prendre subitement d'affection pour ce brave chanoine qui avait une si bonne table et qui appréciait si bien ses ouvrages. On fit de la musique après dîner et l'on se vit ensuite presque tous les jours. Ce fut encore là un adoucissement à l'inquiétude que le silence d'Albert commençait à donner à Consuelo. Le chanoine était d'un esprit enjoué, chaste en même temps que libre, exquis à beaucoup d'égards, juste et éclairé sur beaucoup d'autres points. En somme, c'était un ami excellent et un homme parfaitement aimable. Sa société animait et fortifiait le maestro. L'humeur de celui-ci en devenait plus douce et, partant, l'intérieur du Consuelo plus agréable. Un jour qu'il n'y avait pas de répétition, on était à l'avant-veille de la représentation d'Antigone. Le Porpora étant allé à la campagne avec un confrère, le chanoine proposa à ses jeunes amis d'aller faire une descente au prieuré pour surprendre ceux de ces gens qu'il y avait laissés, et voir par lui-même, en tombant sur eux comme une bombe, si la jardinière soignait bien Angèle, et si le jardinier ne négligeait pas le Volcaméria. La partie fut acceptée. La voiture du chanoine fut bourrée de pâtes et de bouteilles, car on ne pouvait pas faire un voyage de 4 lieues sans avoir quelque appétit. Et l'on arriva au bénéfice après avoir fait un petit détour et laissé la voiture à quelque distance pour mieux ménager la surprise. Le Volcaméria se portait à merveille. Il avait chaud et ses racines étaient fraîches. Sa floraison s'était épuisée au retour de la froidure, mais ses jolies feuilles tombaient sans langueur sur son tronc dégagé. La serre était bien tenue, et les chrysanthèmes bleus bravaient l'hiver et semblaient rire derrière le vitrage. Angèle, suspendue au sein de la nourrice, commençait à rire aussi quand on l'excitait par des minauderies. Et le chanoine décréta fort sagement qu'il ne fallait pas abuser de cette bonne disposition, parce que le rire forcé, provoqué trop souvent chez ces petites créatures, développait en elles le tempérament nerveux mal à propos. On en était là. On causait librement dans la jolie maisonnette du jardinier. Le chanoine, enveloppé dans sa douillette fourrée, se chauffait les tibias devant un grand feu de racines sèches et de pommes de pin. Joseph jouait avec les beaux enfants de la belle jardinière, et Consuelo, assise au milieu de la chambre, tenait Angèle dans ses bras et la contemplait avec un mélange de tendresse et de douleur. Il lui semblait que cet enfant lui appartenait plus qu'à tout autre, et qu'une mystérieuse fatalité attachait le sort de ce petit être à son propre sort. Lorsque la porte s'ouvrit brusquement, et la Corilla se trouva vis-à-vis d'elle, comme une apparition évoquée par sa rêverie mélancolique. Pour la première fois depuis le jour de sa délivrance, la Corilla avait senti, sinon un élan d'amour, du moins un accès de remords maternel, et elle venait voir son enfant à la dérobée. Elle savait que le chanoine habitait Vienne. Arrivée derrière lui, à une demi-heure de distance, et ne rencontrant pas même les traces de sa voiture aux abords du prieuré, puisqu'il avait fait un détour avant que d'y entrer, elle pénétra furtivement par les jardins, et sans voir personne, jusque dans la maison où elle savait qu'Angèle était en nourrice. Car elle n'avait pas laissé de prendre quelques informations à ce sujet. Elle avait beaucoup ri de l'embarras et de la chrétienne résignation du chanoine, mais elle ignorait la part que Consuelo avait eue à l'aventure. Ce fut donc, avec une surprise mêlée d'épouvante et de consternation, qu'elle vit sa rivale en cet endroit. Et, ne sachant point, n'osant point deviner quel était l'enfant qu'elle berçait ainsi, elle faillit tourner les talons et s'enfuir. Mais Consuelo, qui, par un mouvement instinctif, avait serré l'enfant contre son sein comme la perdrix cache ses poussins sous son aile à l'approche du vautour, Consuelo, qui était au théâtre et qui, le lendemain, pourrait présenter sous un autre jour ce secret de la comédie que Corilla avait raconté jusqu'alors à sa manière, Consuelo, enfin, qui la regardait avec un mélange d'effroi et d'indignation, la retint, clouée et comme fascinée au milieu de la chambre.
Cependant, la Corilla était une comédienne trop consommée pour perdre longtemps l'esprit et la parole. Sa tactique était de prévenir une humiliation par une insulte. Et pour se mettre en voie, elle commença son rôle par cette apostrophe, dite en dialecte vénitien, d'un ton leste et acerbe. « Eh, pardieu, ma pauvre Zingarella, cette maison est-elle un dépôt d'enfants trouvés? Y es-tu venue aussi pour chercher ou pour déposer le tien? Je vois que nous courons même chance et que nous avons même fortune. Sans doute nos deux enfants ont le même père, car nos aventures datent de Venise et de la même époque. Et j'ai vu avec compassion pour toi que ce n'est pas pour te rejoindre, comme nous le pensions, que le bel Anzoletto nous a si brusquement planté là au milieu de son engagement à la saison dernière. »
« Madame, répondit Consuelo, pâle mais calme, si j'avais eu le malheur d'être aussi intime avec Anzoletto que vous l'avez été, et si j'avais eu, par suite de ce malheur, le bonheur d'être mère, car c'en est toujours un pour qui sait le sentir, mon enfant ne serait point ici. »
« Ah, je comprends, reprit l'autre avec un feu sombre dans les yeux. Il serait élevé à la villa Giustiniani. Tu aurais eu l'esprit qui m'a manqué pour persuader au cher comte que son honneur était engagé à le reconnaître. Mais tu n'as pas eu le malheur, à ce que tu prétends, d'être la maîtresse d'Anzoletto. Et Giustiniani a eu le bonheur de ne pas te laisser de preuve de son amour. On dit que Joseph Hind, l'élève de ton maître, t'a consolé de toutes tes infortunes. Et sans doute, l'enfant que tu berces
est le vôtre, mademoiselle, s'écria Joseph, qui comprenait très bien maintenant le dialecte, et qui s'avança entre Consuelo et la Corilla d'un air à faire reculer cette dernière.
C'est Joseph Hind qui vous le certifie, car il était présent quand vous l'avez mis au monde.
La figure de Joseph, que Corilla n'avait pas revue depuis ce jour malencontreux, lui remit aussitôt en mémoire toutes les circonstances qu'elle cherchait vainement à se rappeler, et le Zingaro Bertoni lui apparut enfin sous les véritables traits de la Zingarella Consuelo. Un cri de surprise lui échappa, et pendant un instant, la honte et le dépit se disputèrent dans son sein. Mais bientôt le cynisme lui revint au cœur et l'outrage à la bouche.
« En vérité, mes enfants, s'écria-t-elle d'un air atrocement bénin, je ne vous remettais pas. Vous étiez bien gentils tous les deux quand je vous rencontrais courant les aventures. Et la Consuelo était vraiment un joli garçon sous son déguisement. C'est donc dans cette sainte maison qu'elle a passé dévotement son temps, entre le gros chanoine et le petit Joseph, depuis un an qu'elle s'est sauvée de Venise. « Allons, Zingarella, ne t'inquiète pas, mon enfant, nous avons le secret l'une de l'autre, et l'impératrice qui veut tout savoir ne saura rien d'aucune de nous. »
« À supposer que j'eusse un secret, répondit froidement Consuelo, il n'est entre vos mains que d'aujourd'hui, et j'étais en possession du vôtre le jour où j'ai parlé pendant une heure avec l'impératrice, 3 jours avant la signature de votre engagement, Corilla. »
« Et tu lui as dit du mal de moi ?»
s'écria Corilla en devenant rouge de colère. « Si je lui avais dit ce que je sais de vous, vous ne seriez point engagé. Si vous l'êtes, c'est qu'apparemment je n'ai point voulu profiter de l'occasion. »«
Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il faut que tu sois bien bête !»
reprit Corilla avec une candeur de perversité admirable à voir. Consuelo et Joseph ne purent s'empêcher de sourire en se regardant. Le sourire de Joseph était plein de mépris pour la Corilla. Celui de Consuelo était angélique et s'élevait vers le ciel.
« Oui, madame, répondit-elle avec une douceur accablante. Je suis telle que vous dites et je m'en trouve fort bien. » « Pas trop bien, ma pauvre fille, puisque je suis engagée et que tu ne l'as pas été, »
reprit la Corilla, ébranlée et un peu soucieuse.
« On me l'avait dit à Venise que tu manquais d'esprit et que tu ne saurais jamais faire tes affaires. C'est la seule chose vraie qu'Anzoletto m'ait dite de toi. Mais qu'y faire? Ce n'est pas ma faute si tu es ainsi. À ta place, j'aurais dit ce que je savais de la Corilla. Je me serais donnée pour une vierge, pour une sainte. L'impératrice l'aurait cru. Elle n'est pas difficile à persuader. Et j'aurais supplanté toutes mes rivales. Mais tu ne l'as pas fait. C'est étrange.
et je te plains de savoir si peu mener ta barque. »
Pour le coup, le mépris l'emporta sur l'indignation. Consuelo et Joseph éclatèrent de rire, et la Corilla, qui, en sentant ce qu'elle appelait dans son esprit l'impuissance de sa rivale, perdait cette amertume agressive dont elle s'était armée d'abord, se mit à l'aise, tira une chaise auprès du feu, et s'apprêta à continuer tranquillement la conversation, afin de mieux sonder le fort et le faible de ses adversaires. En cet instant, elle se trouva face à face avec le chanoine, qu'elle n'avait pas encore aperçu, parce que celui-ci, guidé par son instinct de prudence ecclésiastique, avait fait signe à la robuste jardinière et à ses deux enfants de se tenir devant lui jusqu'à ce qu'il eût compris ce qui se passait.